Bonjour, aujourd'hui on est jeudi 15 mars 2018, la classe 4ème 4.
Voilà, bah du coup, bienvenue dans mon atelier, l'atelier Tressage Passage.
Nous sommes venus visiter l'atelier Tressage d'Alexandra Lavanière.
Alors, pourquoi j'ai choisi le métier de vanière?
Nous avons discuté avec Alexandra, elle nous a expliqué son métier.
Alors, du coup, vous êtes à la Chartreuse Saint-Cran-Jarret. Est-ce que
et nous allons visiter son atelier.
Et la Chartreuse.
Alors, pourquoi j'ai choisi le métier de vanière? En fait, je l'ai choisi parce que j'avais envie de changer de vie. En fait, avant, je faisais un métier complètement différent. Je travaillais dans l'audiovisuel et je me suis installée à la campagne et j'ai eu envie de faire un métier proche de la nature, en fait. En s'installant ici dans le Pilat, en découvrant les paysages qu'il y avait ici autour et en découvrant qu'on pouvait... en cueillant des branches, les transformer en objets utiles et beaux qui pouvaient servir dans la vie de tous les jours, mais qui pouvaient aussi servir à faire rêver. Et c'est ça qui m'a amenée vers ce métier, en fait. C'est de comprendre qu'on pouvait, en se promenant, juste cueillir des branches, des tiges, des lianes, et ensuite de pouvoir les transformer. Voilà, c'est ça qui m'a amenée vers ça.
Quelle étude avez-vous faite ?
Alors du coup, j'ai fait des études dans le domaine de l'audiovisuel, donc plutôt sur la réalisation documentaire. Donc j'ai appris à tenir des caméras, à utiliser des bancs de montage. Donc rien à voir avec le métier que je fais aujourd'hui. Et du coup, quand je suis devenue adulte et que j'ai décidé de changer de métier, je suis retournée à l'école et j'ai passé un CAP de vannerie dans un lycée professionnel. Voilà, donc je me suis retrouvée avec des élèves de 15-16 ans qui eux aussi apprenaient à faire de la vannerie. Et voilà, c'était une expérience étonnante de se retrouver avec des jeunes élèves.
On peut savoir où ?
Oui, alors à Villeurbanne. Villeurbanne, il y a un lycée professionnel qui s'appelle l'EREA. C'est également un centre régional pour les déficients visuels avec une section qui est ouverte du coup aux personnes non-voyantes et malvoyantes. Donc au départ, cette section était ouverte principalement pour ce public et aujourd'hui, il y en a de moins en moins qui s'orientent vers ce métier. Du coup, c'est ouvert aussi à des élèves voyants. Voilà.
À quel âge avez-vous commencé la vannerie ?
Alors du coup, j'ai commencé il y a 5 ans. C'est pas très très ancien. Je suis une jeune vannière malgré ce qu'on pourrait croire.
Comment avez-vous eu ce déclic ?
Alors ce déclic, je l'ai eu en me promenant, un peu comme j'expliquais tout à l'heure, en réalisant qu'en fait, on n'avait qu'à se baisser, sortir un petit couteau ou un petit sécateur et pouvoir prélever des choses que la nature nous proposait pour pouvoir ensuite les transformer et les sublimer, en fait. J'ai compris que tout était là, en fait. Il n'y avait rien d'autre à construire ou à fabriquer. Il fallait juste s'imprégner de ce qui était là. Et juste le transformer, en fait, c'est ça.
Est-ce une tradition familiale ?
Alors non, pas du tout. je n'ai pas de vannier dans ma famille. J'ai mon grand-père qui travaillait le bois, mais plus comme ébéniste. Donc il était plus dans la construction des meubles et voilà. Mais non, pas du tout. C'est pas une tradition familiale, même si peut-être que je vais la démarrer, la tradition familiale. Je la transmettrai peut-être à ma fille.
Pourquoi ce matériau, l'osier ?
Alors l'osier, il est apparu après, en fait. Au départ, moi, j'ai démarré la vannerie par la vannerie sauvage. Donc c'est ce que j'expliquais de ce que je prélève, en fait, sur les sentiers dans le Pilat. Donc ça peut être... je dis tous les matériaux. Vous avez une question sur les matériaux après ? Enfin bon, voilà, c'était des branches que je glanais comme ça dans les sentiers. Et ensuite, donc j'ai eu l'opportunité de me former à la vannerie traditionnelle française. Et c'est là que je me suis plus formée à l'osier. En fait, l'osier, c'est du saule. Donc c'est un arbre qu'on cultive pour la vannerie. Et du coup, l'osier est devenu le matériau le plus utilisé, en fait, parce qu'il est très, très souple, très, très, très résistant. Et il n'a pas besoin de beaucoup de préparation, en fait. Voilà.
Combien de temps mettez-vous pour faire un panier ?
Alors, j'allais dire, Ça dépend des modèles. Il y a des modèles de panier qui demandent des heures de travail et il y en a d'autres qui demandent juste une heure. Mais en général, quand on veut faire un panier très solide, bien serré, et par exemple pour faire un panier à bûche, ça peut prendre une journée quand même avec toutes les finitions, sans compter le temps de préparation de la matière. Donc c'est quelque chose, c'est un métier qui demande beaucoup de patience en fait. Vous allez l'expérimenter. entre l'idée qu'on a de quand on voit un panier et puis quand on réalise de comment on le fabrique en partant d'une branche, enfin d'un petit fagot de branche, et qu'à l'arrivée on se retrouve avec un bel objet, vous allez voir que c'est un petit peu un travail de patience. Alors même pour les gens qui des fois me disent « Ah mais moi j'ai pas de patience, la vannerie ça va être trop dur pour moi », le fait de se mettre dans cet objet, de le réaliser avec ses mains et d'y mettre tout son cœur, en fait il y a un moment où on est vraiment concentré sur ce qu'on fait et on pense plus à rien en fait. On est vraiment, on établit un dialogue avec la matière en fait. Et c'est là où on peut même parfois entrer un peu en méditation, hein. On n'est plus... voilà, on est vraiment très concentré sur ce qu'on fait.
Êtes-vous seul ? Travaillez-vous avec d'autres personnes ?
Alors, dans mon atelier, je travaille seul. Parce que déjà, j'essaye de vivre de mon métier. Et pour travailler avec un collaborateur, il faudrait que je gagne assez de sous pour pouvoir embaucher quelqu'un et le payer. Même si, parfois, ce serait quand même pratique d'avoir un petit peu de l'aide sur certains aspects. Après, il m'arrive de travailler en collaboration avec d'autres artisans d'art. En fait, on peut parler d'artisans et d'artisans d'art. Les artisans, ils vont vraiment travailler sur un savoir-faire très traditionnel. Et les artisans d'art, ils vont avoir ce savoir-faire traditionnel abordé d'une manière créative, en fait. Voilà, donc je précise un peu... Et donc, il m'arrive de travailler en collaboration avec d'autres artisans d'art. Donc, par exemple, j'ai une collègue qui travaille le verre et on développe une collection ensemble de pièces qui associent la vannerie et le verre. Et c'est vrai que c'est intéressant quand même de travailler avec d'autres personnes parce que ça permet de varier un peu les influences et puis et de s'influencer les uns les autres, en fait, et d'avancer sur sa propre technique en essayant de s'adapter à la matière de l'autre.
Avez-vous plusieurs ateliers, plusieurs lieux ?
Plusieurs lieux ?
Oui.
Non, j'ai un atelier que je vais vous faire visiter juste après. Et en fait, ça me suffit, en fait. C'est juste qu'il est un peu petit, et quand il m'arrive de faire des grandes pièces, quand on me commande des pièces un peu conséquentes... Je travaille dehors.
Et vous exposez ailleurs ?
Et j'expose ailleurs, oui. Tout est fabriqué ici, mais j'expose après dans des boutiques artisanales ou dans des galeries ou dans des salons, voilà, pour aller à la rencontre du public, en fait.
Gagnez-vous bien votre vie ou exercez-vous d'autres métiers ?
Alors, je n'exerce pas d'autres métiers. C'est mon activité principale. Et bien gagner sa vie, en fait, ça dépend de ce qu'on attend dans la vie, en fait. Ça dépend des attentes financières qu'on se fixe, et puis ça dépend aussi de si on cherche à être riche en argent ou riche en épanouissement créatif et en bien-être dans son métier. Et voilà. Donc après, comme j'ai expliqué, c'est pas une activité que j'exerce depuis très très longtemps, donc c'est encore en développement aussi. Il faut le temps, en fait, de se faire connaître et puis de trouver un équilibre financier. Donc, pour l'instant, j'arrive à en vivre, mais c'est pas facile tous les jours.
Rencontrez-vous d'autres artistes ? Avez-vous une reconnaissance par vos pairs ?
Alors, d'autres artistes, donc oui, ça m'arrive de travailler en duo avec d'autres artisans d'art. Après, d'autres artistes, j'en rencontre aussi sur les expositions, quand je vais à la rencontre du public et que je participe à des expositions collectives. Donc, ça permet aussi de nourrir, voilà, chacun son approche des matières. Et une reconnaissance par mes pairs, je crois que ça commence à arriver. Par exemple, dans la revue consacrée à la vannerie, j'ai eu un article sur mon travail. Voilà, donc ça commence. C'est aussi quand on voit que les gens viennent s'intéresser à votre travail qu'on peut avoir l'impression d'avoir une reconnaissance. Après, c'est pas forcément ce que je recherche, la reconnaissance, mais en tout cas, ça permet de prendre confiance en soi et de se dire que voilà, on n'est pas complètement à côté de la plaque et voilà, ça encourage à continuer.
Voilà. Vendez-vous toutes vos pièces ou en gardez-vous ?
Alors, il y en a que je ne vends pas parce que j'en suis pas contente. Donc, j'ai pas envie de les présenter. Et pour moi, c'est des brouillons, donc je les garde, mais voilà, j'ai pas envie de les présenter. Celles qui me plaisent, j'essaye de les vendre. Et après, bah, encore faut-il qu'elles rencontrent le public à qui ça plaît. Et après, ce qui est compliqué aussi, c'est de fixer un prix entre le temps de travail que tu as mis pour fabriquer une pièce, l'énergie que tu y as mise, ce que tu estimes que ça vaut, ce que tu penses que les gens vont être en mesure d'investir dans une pièce pour pouvoir l'acheter. Et après, ben, se comparer aussi aux autres professionnels pour réussir à être dans une gamme de prix. Tu peux pas avoir le... Si tu fais un panier comme un autre vanier qui coûte le double de ce que l'autre a mis, bah, t'es sûr que le tien, tu le vendras pas, quoi. Donc voilà, donc c'est toujours de trouver des ajustements. Voilà.
Pourquoi avez-vous choisi de nommer votre atelier Tressage Passage ?
Alors, je sais pas, t'as une idée ? Non ? Alors pourquoi ? Eh ben... j'avais envie d'assumer le fait que je faisais pas de la vannerie traditionnelle et qu'il y avait un petit grain de folie en fait dans ce que je propose, donc de faire des paniers tordus ou des choses qui sont pas comme on a l'habitude de voir. Voilà, donc c'était le côté passage des tressages, et puis voilà, c'était un jeu de mots qui me semblait intéressant aussi dans la notion du passage, de la passation, de la transmission, donc avec l'aspect de stage, donc de transmettre aussi un savoir-faire. Donc voilà, il y avait sage, passage en un mot, en deux mots, et puis des fois je suis très sage quand même, donc voilà, ça dépend des jours. J'avais envie de faire un jeu de mots sur tous ces aspects-là, en fait. Au début, j'étais pas sûre hein, de garder ce nom, et puis... j'ai trouvé ça drôle et puis ça fait rire les gens et en général ils s'en souviennent, donc je suis contente de l'avoir gardé finalement.
Voilà, bah du coup bienvenue dans mon atelier, l'atelier Tressage Passage que j'ai rangé spécialement pour vous. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais là c'est super rangé. En fait ici c'est pas chauffé du tout, donc en gros pendant l'hiver c'est un peu compliqué de travailler là, donc je travaille du coup chez moi, j'habite à côté. Et là du coup ça m'a permis de remettre un peu les choses en place pour reprendre le printemps, donc merci, grâce à vous mon atelier est rangé. Même si c'est pas vous qui avez rangé, c'est moi, mais c'est grâce à vous que je l'ai fait si tôt dans la saison.
La baignoire.
Quelle baignoire ? Wow.
C'est ici là.
Vous allez prendre un petit bain.
Wow. Ouh, une baignoire. Wow.
Est-ce que c'est chauffé ?
Ah ouais.
Wow. Si je rentre totalement.
J'ai mis une baignoire dans mon atelier.
Pour assouplir l'osier.
Non, pour
oui.
La tasse.
Pour l'assouplir.
Pour la tasse.
Pour assouplir, c'était la première réponse la bonne. En fait, ici, vous voyez, tout ça, c'est mon stock d'osier. Donc, c'est mon stock de matière. Donc, vous voyez, il y a différentes couleurs. Les différentes couleurs, ce sont différentes variétés d'osier. Je ne les ai pas teintées, en fait. Hein. Ils sont de couleurs différentes en fonction des variétés. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont foncés. Et ceux qui sont clairs, les blancs, c'est de l'osier dont on a retiré la peau. C'est de l'osier écorcé. Voilà. Et du coup, on les fait sécher, en fait, pour pouvoir les conserver. Et pour pouvoir les tresser, il faut les remouiller, mais pendant longtemps. Pendant au moins 15 jours, en fait, pour les osiers bruts. Donc les osiers bruts, ce sont les foncés, ceux avec les écorces. Et les osiers écorcés, les clairs, je les mets juste une demi-heure ou deux, trois heures dans l'eau, ça suffit. Voilà, après il y a d'autres choses comme ici, ça c'est des joncs. Donc les joncs, ça c'est des plantes qui poussent les pieds dans l'eau, souvent au bord des routes.
Donc ça, c'est des joncs, ce qu'on appelle les joncs à massette. Ce sont des grandes... ça fait un peu comme du ruban, en fait, quand on l'humidifie. C'est vachement souple, ça. Parce que l'osier, c'est quand même, vous allez sentir, c'est quand même un peu costaud, quoi. C'est quand même des branches, en fait, au départ. Donc il y a un peu de résistance, il faut mettre un peu de force dans les mains.
Et c'est tout le même arbre ?
Alors l'osier ? Oui, c'est du saule. En fait, c'est du saule. Vous connaissez peut-être des saules ? Les saules pleureurs, par exemple ? Ça vous parle ?